Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et tout de suite, on va accueillir Mickaël Mention. Mickaël Mention, bonsoir.
Salut.
Salut, donc merci
beaucoup. Vous allez
bien? Oh ben nous, on va très bien. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Ben oui, très très bien.
Voilà, donc d'abord, un grand merci de nous rejoindre. Pour vous présenter une phrase, j'espère qu'elle vous conviendra, homme d'écriture. Ça va? C'est même pas une phrase complète.
Bien, oui, ça me va bien.
Voilà, vous partagez en gros entre l'écriture de romans et aussi des scénarios régulièrement. Et donc, vous nous rejoignez pour parler de votre dernier roman qui vient de paraître, qui s'appelle, j'espère bien prononcer, Bienvenue à Cotton's Warwick.
Exactement.
C'est votre 8e roman et il est paru aux éditions Ombre Noire. C'est une histoire très très noire, très sombre, qui puise, à mon avis, on va en parler, dans beaucoup de mythes. Pour autant, on va essayer, vous allez nous en raconter, nous en dire un petit peu plus, mais on va essayer de pas trop dévoiler l'histoire, mais surtout ce soir d'évoquer les thèmes. À commencer par celui qui me semble le plus important, celui qui est un petit peu le fil conducteur, c'est le fait que vous ayez eu envie d'installer un huis clos étouffant dans ce roman. Huis clos, c'est un mot qui convient au thème ?
Oui, complètement. Je voulais même travailler sur la double notion de huis clos, car il y a une seconde partie dans le roman qui se déroule dans un lieu clos. Mmh. Mais de toute façon, je concevais ce village qui est en plein air comme une sorte de huis clos invisible, où tout est très fermé sur les habitants, personne ne communique, la chaleur serait une sorte de mur invisible un petit peu. Et puis, de toute façon, les interactions entre les personnages étant inexistantes, voilà, j'ai vraiment conçu ce village comme une sorte de prison à ciel ouvert, si vous voulez.
Alors, vous parlez de village, et moi, quand j'ai lu ce roman, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est communauté, en fait. C'est...
Ouais. Oui, alors je tenais beaucoup à travailler sur cette question dans le roman, c'est-à-dire que dès le début je suis assez implacable quant à mes personnages, mais j'avais à cœur quand même de montrer comment ils en sont arrivés là, soit sombrés dans l'alcool, soit dans la violence ou les pires vices, parce que ce sont des gens qui résistent, qui subsistent, qui s'accrochent à ce qui reste de leur communauté, ou du moins aux souvenirs qu'ils ont de leur communauté passée, à l'époque où le village était florissant, où on pouvait cultiver à tout va. Donc voilà, c'est vrai que cette notion de communauté, de lien entre les êtres, ça m'intéressait de travailler sur ça, même si ces liens sont à la fois fondés et infondés, parce qu'on voit bien que chacun a son intérêt, chacun a ses petites manipulations, mais malgré tout, et c'était ce qui me semblait intéressant à développer, c'était que même si ces liens sont vicieux entre les êtres, c'est quand même du lien, c'est une sorte de ciment entre les habitants.
Alors il y a ce lien, ce ciment, et ce lien peut être aussi des rapports de haine, parce qu'à un moment donné, comme vous le dites, ils vont se retrouver par des malheurs qui vont se succéder sur cette communauté. On reviendra, le mot malheur n'est pas très bien choisi d'ailleurs, mais par rapport à certains événements, ils vont se retrouver tous enfermés, et on se rend compte, alors il faut savoir que dans ce village, il y a environ une quinzaine d'hommes, et il y a une seule femme, les autres femmes ont disparu. Vous donnez une...
Alors il y a 16 hommes et une femme, toutes les femmes se sont suicidées,
ouais, voilà.
Sauf une qui subsiste, c'est Karen, celle qui tient le bar du village. C'est une femme qui est totalement niée dans son identité, personne ne lui parle, personne ne la considère, ou alors on ne s'adresse à elle uniquement que pour lui réclamer son assiette et une bière bien fraîche. Et tout le monde la convoite, tout le monde veut la violer, mais personne ne la touche, car le shérif Quinn tient à cet équilibre, justement pour maintenir cette fameuse communauté en équilibre. Mais bon, c'est un équilibre très précaire, bien sûr.
Bien évidemment, parce que le but, me semble-t-il, d'un écrivain qui tricote une histoire, c'est de trouver le point de déséquilibre, de trouver le petit événement qui va tout faire basculer. Et ce petit événement, nonobstant une disparition d'un camion, enfin pas vraiment du camion mais plutôt du chauffeur, la disparition qui avec des trafics en même temps qu'un ravitaillement, ça va être l'arrivée d'une autre femme un petit peu un personnage à la Théorème, ce film absolument fantastique.
Oui, exactement.
Et bien, qui va...
C'est une référence qui... Ah oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que forcément, quand on écrit, et plus particulièrement du roman noir, on aime beaucoup travailler sur la rupture, sur le point de déséquilibre. Et par rapport à ce que je disais précédemment, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où ces gens-là avaient l'impression d'être ensemble, d'être unis malgré tout, malgré les petites divergences, les petits intérêts de chacun, et de voir justement ce qui pouvait se passer dès qu'un élément tout aussi minime pouvait intervenir dans cette routine et pouvait tout perturber. Donc effectivement, ça commence d'abord par une disparition. Donc de prime abord, voilà, on va pas s'inquiéter pour ça. Mais quelque part, ça suffit, parce que ça suffit à décaler la messe du soir, et puis ça fait parler au pub, et ça réveille quelques rancœurs, et puis il y a une autre disparition, voilà. Et c'était cette progression, ce crescendo qui m'intéressait dans Nirvana Coton's Warwick. Et ce deuxième personnage féminin est pour moi le... sorte de catalyseur, on va dire, de toutes les frustrations, car non seulement par rapport aux hommes du village, ils découvrent une femme de la ville, entre guillemets, qui arrive de Sydney, une femme d'aujourd'hui, alors que eux, ils vivent encore un petit peu au Moyen-Âge, on va dire.
On a presque envie de dire une femme normale. Une femme normale,
femme d'aujourd'hui, qui s'assume, qui assume ses responsabilités, sa féminité, qui a beaucoup de répondants, et donc elle incarne une menace par rapport à ces hommes, qui ont toujours été habitués à manipuler les femmes, en tout cas à les tenir et à tenir Karen, mais elle incarne aussi, et ça j'y tenais particulièrement, elle représente également une menace pour cette autre femme qui est Karen. Car, comment dire ça, le fait que Karen soit toute seule dans le village, elle en souffre au quotidien, évidemment, mais paradoxalement, ça lui assure un certain monopole, parce que le shérif Quinn la protège indirectement, sauf que forcément, en présence d'une deuxième femme, elle se sent encore plus en danger. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler sur ça, et en fait, bienvenue à Coton's Warwick, le thème principal, c'est le pouvoir. Le pouvoir entre les individus, le pouvoir entre les hommes et les femmes, et de montrer à quel point le pouvoir peut être à la fois très concret et très abstrait, parce qu'au moindre événement, tout ça peut voler en éclats.
Et le pouvoir des êtres humains, c'est aussi... Alors, il y a cette femme donc qui s'appelle... Alors, je vais prononcer d'une certaine façon cette femme qui arrive, le point de déséquilibre, Faiza Osmond.
Oui.
Mais Osment, O-S-M-E-N-T, moi je l'ai lu ossement, comme un tas d'os. C'est évidemment pur fantasme de ma petite tête de lectrice.
Ah oui, alors là, pour le coup, ce qui se passe en fait, c'est que comme j'en suis à mon huitième roman, ce que vous avez dit il y a cinq minutes, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on commence à réfléchir au nom des personnages, c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre justement de livres, on se décarcasse un petit peu. Donc j'avais déjà fait Bradford, j'avais déjà fait Graham, j'avais déjà trouvé d'autres noms de personnages, car c'est vrai que ce que j'écris se situe souvent à l'étranger, pas toujours mais souvent. Donc là, je me suis mis en quête d'un nom qui pouvait être assez présent justement en Australie, et j'ai trouvé ce nom, j'aimais bien, je trouvais que ça claquait justement, Faiza Osmond,
ça claquait
comme un logo.
Ça, voilà, tout à fait. Et justement, vous avez cité, parce que c'est une chose quand même qui est très importante dans ce roman, dont on n'a pas encore parlé, le huis clos que vous installez avec ce pouvoir qui va osciller, vaciller entre les membres de cette petite communauté, tout ça s'est installé dans un des plus grands territoires isolés du monde, me semble-t-il, c'est l'Outback australien. Pourquoi avoir choisi cet endroit ?
Parce que je voulais vraiment un univers aussi dur que les gens qui l'habitent. Généralement, j'ai un rapport à la violence dans mes romans qui est assez, épuré. J'aime plus travailler sur l'atmosphère que sur les descriptions ou de torture ou de... Voilà. C'est très très rare de trouver une goutte de sang dans mes romans. Et là, je me suis dit que j'avais cette envie, je peux pas vous dire pourquoi, de quelque part de me radicaliser dans mon écriture, mais je voulais vraiment que cette démarche s'inscrive dans une logique littéraire. Donc j'avais surtout pas envie d'écrire sur un serial killer. et de décrire voilà, les tortures, le sang, la chair, machin. Donc je me suis dit, quitte à faire quelque chose de violent, il faut que le cadre du récit soit violent. Et je me suis intéressé à l'Australie, j'y suis allé il y a 2 ans, et ça m'avait frappé parce que voilà, il y a vraiment des coins sur ce continent qui sont terriblement rudes, c'est-à-dire qu'on ne peut rien cultiver, il fait extrêmement chaud le jour, extrêmement froid la nuit, et tout ça conditionne l'individu. Et ça, c'est un thème récurrent justement dans mes romans. C'est le positionnement de l'individu par rapport à son époque et à son environnement. Et ce qui m'intéressait à travers ce roman-là, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment les gens qui habitent ces contrées-là. Cotton's Warwick est un village totalement fictif, mais je l'ai situé à une 20 miles de villages qui existent dans le territoire du Nord. Et ce sont des villages où il y a 20, 30, 40 personnes maximum. Et ce sont des gens qui n'ont rien. C'est-à-dire ils ont été lâchés par le gouvernement. Plus personne n'y va, voilà, plus aucun touriste, plus aucune présence policière. Et ces gens-là perdurent, ils persistent. Alors, ça se fait à grand renfort d'alcool et de trafic, mais ils sont toujours là et ça m'intéresse parce qu'on est au cœur de la survie, on est au cœur de ce qui, à mon sens, caractérise l'humanité depuis toujours. C'est ce besoin de perpétuer la vie malgré tout. De continuer, où on fait des bébés, où on crée des liens, où on ramène des gens dans le village, mais en tout cas, il y a ce besoin de continuer. Certains cèdent au suicide et d'autres trouvent la force, une force inconsciente, je pense, de perpétuer la vie.
Alors, ils trouvent certainement une force inconsciente, ils instaurent des pouvoirs entre eux, mais il y a aussi une réflexion, cet isolage géographique, ce fait d'être isolé du monde, leur confère aussi, leur ramène à une certaine, on va dire, animalité primale, primordiale, un petit peu, d'ailleurs même le langage est affecté. Un petit peu comme la nature les réensevelissait.
Mais complètement, ceci dit, même si vous et moi, on n'habite pas dans un village reculé au fin fond de l'Australie, on sait très bien que nous vivons dans un monde à l'heure actuelle qui est particulièrement dur. C'est le monde ultralibéral, marche ou crève, où on licencie à tout va, où à partir de 40 ans, on est considéré comme trop vieux, et c'est d'ailleurs pire pour les femmes. Notamment dans l'industrie du cinéma, où dès qu'il y a une ride, on n'embauche plus les nanas, ou alors il faut qu'elles se fassent refaire la tronche et tout ça. Donc on est vraiment dans un monde impitoyable. Et ce qui m'intéressait à travers ce roman, c'était de montrer que, certes, dans ce village, la vie est dure, les rapports sont durs, l'environnement est dur, et les rapports sont violents, sont vulgaires, mais j'ai voulu quelque part transposer ce que je ressens au quotidien en vivant à Paris, même si j'aime la vie et que je suis très content d'habiter à Paris, et que j'ai des amis, des lecteurs et tout ça, mais c'est vrai que la dureté que nous connaissons aujourd'hui et qu'on peut observer à travers certains médias, j'ai voulu la transférer dans ce petit village. Et en fait, quelque part, que ce soit le Ranger Queen avec tel ou tel fermier ou Karen dans ce village, moi je vois pas vraiment de différence entre un petit chef de rayon à la con qui va se permettre de parler de telle manière à telle ou telle nana, ou à un stagiaire, par exemple.
Et de manière totalement métaphorique, ce n'est pas pour rien que cette petite communauté, attaquée de toutes parts, va se réfugier dans un abattoir. Exactement. Là, on achève bien les chevaux, en quelque sorte.
Exactement. Ben oui, un abattoir, parce que de toute façon, c'était Camus qui disait... il a dit ça dans La Chute, il a dit « N'attendez pas le jugement dernier, il a lieu tous les jours ». Mais c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde me parle d'apocalypse par rapport à Bienvenue à Cotton's Warwick, et on me parle de ce fameux abattoir. Mais pour moi, l'apocalypse, elle est déjà présente dès le premier paragraphe dans ce village. Et quelque part, ce qui se déroule ensuite dans cet abattoir n'est que l'extension de ce qui était déjà présent au début, de ce qui couvait. Parce que de toute façon, dès le début, les personnages ils ont cessé de se laver depuis un moment. Hein. L'hygiène, c'est un vieux souvenir. Ils ne communiquent pas, ils sont tous violents, il n'y a que des rapports de force, ça se tape dessus. Donc voilà, donc effectivement, ce qui se passe à l'intérieur de cet abattoir est quelque part le climax de tout ce qui couvait depuis le début, quoi.
Et puis ce paroxysme de violence qui va s'exercer, certes, des hommes envers les hommes, mais le pouvoir de l'écrivain que vous êtes passe aussi par des attaques, on va dire, très métaphoriques, très mythiques. Vous évoquiez les textes fondateurs, l'idée des plaies qui s'abattent sur cette petite communauté et des animaux. Alors on est bien en Australie, puisqu'on va avoir aussi des kangourous, certains serpents sordides. Et donc, des attaques récurrentes d'animaux.
Oui. Mais ce pouvoir de l'écrivain, bon, merci déjà. Mais disons que ce qui peut être intéressant quand on écrit sur une histoire aussi dure, enfin disons sur une histoire qui prend la direction d'une telle dureté, c'est qu'on se pose la question à chaque fois de se dire si j'explore la piste du cannibalisme, pourquoi? Si j'explore la piste de tel ou tel crime, pourquoi? C'est-à-dire, à chaque fois, je me suis positionné, et on s'est positionné avec mon éditrice Caroline, à chaque fois, pour vraiment se demander ce qui était justifié et ce qui ne le serait pas. Et forcément, lorsqu'on achète mon roman, je pense que les gens, ils ont des attentes légitimes. Ceux qui ont aimé Délivrance, Razorback et certains films un peu comme ça, ils m'attendent au tournant sur les questions par rapport à ce que je disais, ce qui touche au cannibalisme ou au viol ou ce genre de trucs. Et je sais que j'ai tout fait, soit pour effleurer des situations sur lesquelles on m'attendait, soit pour essayer de les contourner. C'est-à-dire jouer avec les codes sans forcément tomber dans l'extrême inverse, de dire alors on m'attend sur ça, donc je vais faire l'inverse. Parce que ce roman est un hommage à ces romans de genre. Donc j'assume totalement mes influences. Mais c'est vrai que ça m'amusait de jouer avec ce rapport à la violence, de ce que je pouvais montrer, pas montrer, ce qui est réel, onirique ou pas. Et voilà. Et ça, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à être au plus près de ces plaies dont vous parliez à l'instant, et de vraiment travailler sur les ravages du temps, sur le processus de pourriture de la viande, par exemple, ce qui bien sûr
sur les bactéries, sur le
clodisme, la dégénérescence des personnages.
Voilà, dégénérescence qui est à la fois extérieure et intérieure. Il y a une page sur l'attaque insidieuse d'une bactérie, Clostridium, qui est absolument superbe. Alors, il nous reste une minute. On avait prévu de la musique, on la passera pas. C'est tant pis, mais on la passera bientôt. Mais c'était mieux de vous entendre. Je voudrais simplement
parler, c'est ça.
Non, mais c'est très bien. Notre émission est faite pour ça, pour vous entendre.
D'accord.
Donc, je vais terminer. On aurait pu parler encore un quart d'heure de votre style, parce que vous parlez du pourquoi écrire ça, mais il y a aussi le comment. Mais comme le temps passe et qu'il n'aura juste 30 secondes, moi, je vais lire simplement comment vous évoquez l'abattoir, c'est-à-dire qu'il y a une image, alors il y a une incantation, il y a une image à la fois sonore et une image mentale qui devient une image visuelle, une espèce de calligramme. Alors, je lis. Trancher, jeter, lever. Trancher, jeter, lever. Trancher, jeter, lever. Voilà. Ça, sur une page qui régulièrement intervient. Vous lisez vos textes à haute voix? Vous avez juste 30 secondes.
Je le fais de plus en plus et je me relis de plus en plus. J'imprime et je relis, je dégraisse, je fais ma petite tambouille. Et justement, par rapport à ce passage, et je fais très vite, ce côté mécanique du travail à la chaîne, c'est en ça que Cotton's Warwick représente un petit peu ce monde dans lequel on vit, avec tous ces gens qui travaillent à la chaîne dans les usines ou certains jobs que j'ai pu faire par le passé, ou que je fais encore d'ailleurs. Et donc ça, effectivement, c'est marrant, parce qu'effectivement vous avez choisi un extrait qui n'est pas le plus littéraire, effectivement, et c'est un extrait auquel je tiens beaucoup parce qu'il travaille sur la folie, sur le côté démentiel de certaines activités, et ce qui finit par casser les individus à l'heure actuelle.
Puisque nous avons évoqué un film, un deuxième, moi je n'ai pu m'empêcher de voir, et avec moins d'humour, mais aussi la fameuse scène où Charlie Chaplin se retrouve dans le travail à la chaîne. Voilà, on va terminer cette émission. Merci beaucoup Michael Mention, je vais rappeler, donc bienvenue à Cotton's Warwick, c'est votre dernier roman qui est paru en décembre aux éditions Ombre Noire. On vous souhaite de très bonnes fêtes avec toute votre petite famille,
et on espère
se croiser bientôt. Merci beaucoup, Michael.
Au revoir.
Au revoir.